Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Coetchea de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, Podcasting vous emmène sur la plus grande des îles françaises métropolitaines, enfin après la Corse. C'est l'île d'Oléron. Plantons le décor, une zone ostréicole. Les protagonistes, une femme, une militante du patrimoine, face à un homme, un passionné de culture. Et l'intrigue, une querelle de 10 ans autour du théâtre d'Ardoise, un lieu culturel. L'article a été publié dans Le Monde le 20 octobre dernier. Il s'intitule « Sur l'île d'Oléron, entre la passionnaria du paysage et le poète des marées, un duel sans fin ». Laurent Carpentier, vous en êtes l'auteur. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous accueillez dans les locaux du journal Le Monde à Paris. Vous y êtes journaliste culture. Auparavant, vous avez travaillé sur les questions d'environnement. Votre article fait partie des 100 articles mis en ligne par Le Monde dans ce que vous appelez « Fragments de France ». De quoi s'agit-il ?
L'idée était double de la part de la direction du Monde. D'une part, il s'agissait de dresser un portrait de cette France dont les édiles ne savent pas très bien qui elle est, dont on nous dit tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'était pas d'avoir un tableau exhaustif, mais d'avoir dressé un portrait fragmenté, d'où le nom, de cette France. L'autre idée, je pense, c'était après 2 ans de confinement, de remettre un peu tout le monde sur les routes de France, de remettre toute l'équipe. Ils ont envoyé des binômes de 100 photographes, 100 journalistes qui sont partis faire 100 sujets sur les routes de France. 101 pour être précis, car il y en avait un en plus de Florence Aubenas.
Avec qui avez-vous travaillé en tant que journaliste ?
Alors moi, j'ai travaillé avec une jeune photographe qui s'appelle Clémence Losfeld, très bonne photographe. Et voilà, c'était intéressant de toute façon d'être à deux, parce qu'on a deux regards différents. Le regard de celui qui écrit, qui note, qui appréhende certaines choses n'est pas le même que celui qui regarde différemment avec son appareil photo. Donc c'était intéressant de comparer nos deux regards.
Tous les deux, vous êtes allés à Dolus d'Oléron, où vit Jean-Marc Chaiolo, un homme de 68 ans. À quoi ressemble-t-il ?
Ben, c'est un grand gaillard, buriné par le vent. Enfin, vous voyez, c'est un ostréiculteur, fils d'ostréiculteur, qui a toujours vécu là. C'est aussi un homme assez sympathique, charmant, qui a l'habitude de la parole parce que, à un moment donné, dans sa vie, il s'est dit que pour faire un peu avancer les affaires de son père, il allait falloir les vendre et il a commencé à faire les marchés dans la région parisienne. Donc, il venait tous les week-ends à Paris avec la camionnette depuis Oléron. Il discutait avec les gens sur les marchés et c'est un mec qui est intarissable sur comment on fait des huîtres. Jean-Marc Chaiolo, un jour, se découvre aussi, à force de parler comme ça, des talents de conteur. C'est un garçon, un homme qui parle patois, qui a toujours vécu là-bas, qui a ramassé les histoires qu'on lui racontait et qui a aussi une culture. C'est-à-dire qu'il a été voir des gens comme Yannick Jolin, justement, qui est conteur. Et il s'est dit que lui aussi, qui est conteur en patois vendéen, il s'est dit que lui aussi, il pouvait raconter ces histoires qu'on hérite près de la cheminée le soir, qu'on hérite dans son berceau, qu'on hérite en allant dans les parcs à huîtres avec son père et qui raconte des histoires sur le voisin, ceci. Et toutes ces histoires, il a commencé à les raconter, à en faire un spectacle avec un copain à lui, un autre ostréiculteur, et ça a eu beaucoup de succès à Oléron.
À 50 ans, en 2003, il décide de faire un grand ménage chez lui. Racontez-nous.
Un jour, il se dit qu'au bout de sa parcelle, où il y a un amas de détritus qui commence à s'accumuler, non pas forcément seulement de son fait, mais aussi de la part des gens du coin qui viennent s'en servir un peu comme décharge au bout d'un moment, il se dit qu'il va nettoyer tout ça. Et puis, il commence à nettoyer, il se dit « qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Et ils font un talus avec son ouvrier ostréicole avec qui l'emploie. Et ils font un talus et ils utilisent notamment dans ce tas de détritus, il y a les anciens collecteurs d'huîtres, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on posait les huîtres, qui sont en fait des morceaux d'ardoise verticale et qu'on jette parce que maintenant on met des ronds en plastique, des espèces de tuyaux de plastique qui sont plus commodes pour collecter les huîtres et pour les arracher surtout. Et du coup, de ces huîtres, il les dresse et puis il fait une espèce d'amphithéâtre. Lui qui aimait raconter des contes, lui qui aimait faire des spectacles, il fait une sorte d'amphithéâtre avec ses tuiles verticales et des morceaux de bois pour faire des sièges. Et ça fait 5 gradins qui font 50 cm de hauteur. Donc vous voyez, ça doit faire en tout, ça doit faire 5 mètres maximum qui débordent de... Il y a une dizaine de gradins, voilà. Donc, il est au fond de son champ, il crée ce théâtre d'ardoises à cause des ardoises.
Maintenant, à quoi ressemble-t-il ? A-t-il gardé ces 5 gradins, justement ?
Oui, le théâtre d'ardoises n'a absolument pas changé. Le théâtre d'ardoises, c'est un arc de cercle, un amphithéâtre à ciel ouvert. Au milieu des marais, il faut bien voir, c'est des champs à l'infini. Il y a un vieux figuier qui a poussé là sans qu'on lui demande rien, qui a poussé. Il y a l'odeur du figuier, il y a l'odeur des marais, il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de bruit aussi. On entend les crapauds, c'est très amusant de marcher. Donc c'est complètement noyé dans la nature. À vrai dire, c'est un élément naturel. On le retrouvera dans l'état, dans l'hiver, il est envahi par des mauvaises herbes un petit peu en haut. C'est un talus aménagé, grosso modo. Puis autour, il a mis quelques cabanes, un chiotte de fortune, enfin comme on peut avoir dans l'arrière-cour d'une ferme, quelques cabanes, parce que avant les spectacles, donc ils font des spectacles tous les week-ends pendant des années, l'été uniquement. Avant le spectacle, on peut y manger des huîtres, on peut y déguster du vin du coin, un peu de fromage. Tout ça est animé par uniquement des bénévoles. Le seul salarié, je crois, c'est celui qui faisait la sono. Et encore, c'était souvent aidé par le fils de Chaiolo lui-même. Donc, on est vraiment dans une entreprise familiale, bricolée, etc. Ce qui est étonnant, ça va marcher du tonnerre de Dieu, et que, comme finalement, il s'est fait du réseau en étant dans plein de coups un peu gauchos, c'est un vieil anarchiste, il va faire venir des gens qu'on ne s'attendait pas à voir là, des gens comme Jacques Bonafé, Olivier Py, Miossec, à la fois des groupes de musique et des gens de théâtre, et pour des spectacles de qualité, des spectacles qui tournent sur la France entière, des spectacles de niveau national, comme on pourrait dire, en football. Et ça va provoquer à la fois une sorte d'émoi chez des gens qui vont se dire mais au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? C'est quoi ce truc-là ? Et en même temps, une adhésion, y compris de la part des deals, qui a priori ne devraient pas soutenir un vieil anarchiste comme lui.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'aurait pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer.
En 2011, après 2 étés de festivités qui se passent bien, une femme s'intéresse au théâtre d'ardoises et s'inquiète de ce succès. Elle s'appelle Monique Vidalinck. Qu'est-ce qui vous a marqué chez elle ? Vous l'avez rencontrée ?
Oui, bien sûr, je l'ai rencontré. Petite femme bourrée d'énergie, une petite boule d'énergie comme ça, un peu raide comme la justice, mais qui arrive tout sourire. Elle nous a donné rendez-vous, elle a un dossier sous le bras. On sent déjà la procédurière, il faut bien le dire. On sent, voilà. Mais tout à fait ouverte, tout à fait prête à la discussion. Une battante, elle a 87 ans, elle arrive au volant de sa bagnole. Ça fait 20 ans qu'elle se bat et sa cause, c'est... explique-t-elle, la défense de l'environnement.
Justement, Monique Vidalinck, qui à l'époque est âgée de 77 ans, quand elle s'intéresse au théâtre d'Ardoise, elle est très investie dans une société qui s'appelle la Société de protection des paysages de l'île d'Oléron. Qu'est-ce que c'est au juste ?
Alors, à l'île d'Oléron, la SPPIO, c'est une institution parce que, grosso modo, ça a été créé dans les années 70 par un aristocrate qui s'appelait Emmanuel Beau de Loménie, qui avait une résidence là, et un ancien maurassien qui avait ses entrées quand même à Paris. C'était la grande époque des grands ensembles qui ont dévasté un peu la côte, type la Grande Motte, et il y en avait un projet énorme qui menaçait, et lui a réussi à empêcher la construction avec cette association qu'il avait créée de ce grand ensemble. Et d'une certaine façon, ça a sauvé en grande partie, au moins la côte sauvage de l'île d'Oléron.
Dès le début du théâtre d'Ardoise, Monique Vidalinck s'oppose vigoureusement au théâtre. Pourquoi ?
Sa position est très simple et au fond très juste. Le théâtre est construit totalement illégalement sur une zone Natura 2000. Totalement illégalement. Bon, après, ça peut se discuter, la période, etc., etc., etc. Mais effectivement, le premier argument, c'est que cela abîme le paysage. Mais de son propre aveu, elle n'est jamais venue sur le terrain voir que ça abîmait le paysage. Deuxième argument, le flot de voitures qui vient, c'est-à-dire 400 personnes au maximum, mettez qu'il y en a deux par voiture, ça fait 200 voitures, mais une fois de plus, aucun voisin ne s'est plaint. Troisième argument, qui est totalement vrai, qu'est-ce qui me garantit demain, si j'autorise ça, que demain, il n'y a pas une grande roue, une fête foraine, qu'est-ce que je sais et qui va... Là-dessus, on ne peut pas lui nier le truc. Ce qui est plus étonnant, c'est pourquoi elle ne vient pas, pourquoi elle ne cherche pas à s'intéresser au fond de l'affaire, pourquoi est-ce que, devant la satisfaction des gens, est-ce qu'elle s'entête là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'elle en a fait son cheval de bataille ? Là, on arrive sur une histoire dans Lucky Luke à la Penfulguche. Enfin, c'est l'histoire de Cloche-Merle où, d'une certaine façon, l'un et l'autre vont nourrir sa haine. Monique devient la risée du théâtre d'Ardoise. Elle devient même un personnage dans les petites aventures qui se racontent. On se moque d'elle. C'est la Monique. On ne dit plus Monique Vidalinck. On dit plus. Elle-même en souffre. Mais c'est quelqu'un qui s'est durci le cuir, qui s'est fait le cuir devant ça, quoi. Donc,
Vous parliez de Natura 2000. Qu'est-ce que c'est au juste, Natura 2000 ?
C'est une zone de protection naturelle, soit pour la flore, soit pour la faune, mais qui oblige à un certain nombre de réglementations et d'autorisations si on veut y construire quelque chose. Mais surtout, ce qui était mis en question du coup, c'était les petites cabanes construites autour, mais qui sont des petites cabanes en bois. Voilà.
Comment Monique Vidalinck, elle va décider de lutter contre ce théâtre d'Ardoise ?
Monique Vidalinck, c'est typiquement la procédurière habituée aux dossiers administratifs. Donc, elle va porter plainte et elle va déposer des plaintes régulièrement en agitant un petit peu, notamment toutes les autorités face à leur devoir, qu'il s'agisse des maires ou des préfets. Alors, les maires ne la suivent pas, la préfecture, dans un premier temps, la suit, mais la préfecture est emmerdée parce qu'en même temps, c'est un endroit qui marche, qui fait plaisir aux gens, c'est un fils du pays, etc. Et ils vont se repasser le bébé les uns après les autres. Et rien n'est réglé pendant 10 ans, quoi, grosso modo.
Thank you. Sur l'île d'Oléron, Monique Vidalin qui ne fait pas forcément l'unanimité.
Oui, ben Monique Vidalin, qu'elle est connue comme le loup blanc, elle a porté plainte contre à peu près tout ce qui pouvait se faire de nouveau, ce qui parfois est d'ailleurs de bon aloi. On a souvent besoin de gens comme ça, on appelle ça parfois des lanceurs d'alerte, parfois effectivement des amateurs de procédure, elle en fait toujours un peu trop, c'est-à-dire qu'elle va attaquer Ubi et Torbi et se faire à peu près ennemi avec tout le monde. Il se trouve que, par exemple, l'ancien maire de Dolus-d'Oléron, qui est un écolo par ailleurs, hein, faut savoir qu'il soutenait le Théâtre d'Aroise, qui est celui qui a été connu parce qu'il s'est battu contre l'établissement d'un McDonald's. Cet homme s'appelle Grégory Gendre. Il m'expliquait qu'au moment où elle a commencé à leur chercher des poux dans la tête pour un changement de plan d'occupation des sols, il avait retrouvé le fait que quand elle était arrivée à l'île d'Oléron, elle était en fait agent immobilier et qu'elle vendait des terrains inconstructibles à des gens pour qu'ils y mettent leur caravane, ce qui quand même pose un petit problème pour quelqu'un qui se prétend pour la défense du paysage. Mais tout ça est toujours, une fois de plus, plutôt de l'ordre de Clochemerle. Mais cette femme, vous me demandiez à quoi elle ressemblait, elle a cette pugnacité qui semble un peu indestructible. On sent qu'elle l'emportera jusqu'à la fin, elle se battra parce qu'elle veut prouver quelque chose. Quoi exactement ? J'en sais rien.
En 2020, une médiation a lieu entre l'État et le Théâtre d'Ardoise. Ont-ils trouvé une solution justement qui convienne à tout le monde ?
Non, je dirais qu'ils ont trouvé une solution qui convenait à personne, mais tout le monde s'en accommode puisque c'est une décision de justice. Donc la décision était que d'une part, il y avait prescription pour le théâtre donc, qui restait en l'état, ce qui évidemment ne satisfaisait pas Monique Vidalin, mais bon, elle ne pouvait pas y faire grand-chose. D'autre part, qu'on allait détruire les cabanes, que ça serait à la charge de la mairie, puisqu'il fallait quand même servir ses repas, etc., etc., que pour l'accueil, la mairie prenait en charge le montage et le démontage de cabanes amovibles, donc en respect de la loi. Donc on est dans une espèce de situation un peu ubuesque, absurde, où on va dépenser de l'argent pour monter et démonter des cabanes en bois qui ne gênaient pas vraiment le paysage. Donc d'un côté, on trouve ça absurde et coûteux, de l'autre côté, on trouve ça absurde et inutile, mais c'est la loi. Et donc Monique Vidalin a déjà dit qu'elle allait mettre d'autres procédures, notamment sur l'histoire des voitures qui arrivent, du parking, etc. Il y a toujours les moyens d'attaquer.
Comment vous vous êtes intéressé à cette histoire ?
En fait, je suivais un peu parce qu'il y a 2 ans, j'étais allé voir un spectacle de Yannick Jolin, donc le conteur dont je vous parlais, qui a créé à Pougny-Risson un autre lieu assez formidable qui s'appelle Le Nombril du Monde, avec un festival, une maison à visiter, tout ça, je vous recommande. Et donc, j'avais vu son spectacle dans ce théâtre d'Ardoise et j'avais trouvé ce lieu, justement, dans la nuit, le vent qui souffle. Il y a quelque chose d'autre qui se passe, le théâtre de plein air, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis, j'avais vu les difficultés qui se passaient déjà à ce moment-là. Et donc, c'est un moment que je me disais que c'était un sujet.
Merci Laurent Carpentier. Votre article sur l'île d'Oléron entre la passionnaria du paysage et le poète des marais, un duel sans fin, c'est à retrouver sur lemonde.fr.
Merci Myrène Garay-Coetchea, c'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Leloeil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateforme d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.